Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Manager, s'il y a bien un métier aussi passionnant que difficile, c'est bien celui-là. Comment bien manager ses salariés, comment réussir au mieux leurs embauches, comment les motiver sans verser dans l'autoritarisme ou le maternage, comment tâcher de donner soi-même l'exemple et d'être un manager qui donne envie de se dépasser. Autant de questions compliquées, auxquelles notre invité de ce matin a essayé de répondre pour lui et pour d'autres tout au long de sa vie. Aussi, comme un vin ayant pris le temps de mûrir, je vous propose cette émission de conseils de sagesse d'un vieux guide de haute montagne de l'entreprise à l'adresse des plus jeunes. Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, conseil de bon sens aux managers avec François de Berthier, chef d'entreprise et consultant en management. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous étiez venu il y a quelques temps de cela pour faire une émission sur la maîtrise du temps, ou plutôt la gestion de son temps, nous expliquant que c'était un sujet clé et j'avais retenu surtout qu'on avait souvent, en fonction de son histoire personnelle ou des tempéraments et autres, des manières d'appréhender le temps qui étaient différentes. Et puis, vous étiez revenu pour une émission de conseil en stratégie. C'est ça, redites-moi, c'était conseil...
En gestion du changement.
En gestion du changement, voilà, heureusement que vous êtes là. Bref, en tout cas, ces émissions ont eu du succès. Alors, on vous a réinvité pour une autre émission. Conseil de manager. Alors moi, n'ayant pas été chef d'entreprise, je vais essayer de vous guider comme je le peux. Peut-être, oui, je voulais vous lancer là-dessus. En préparant l'émission, je suis tombé sur un certain nombre de revues, par exemple Cadre et Dirigeants Magazine et autres, qui louent les mérites du pape François et le présentent comme un exemple de manager et de leader. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Alors, je ne l'ai pas approché d'assez près pour pouvoir porter un jugement.
Très bonne réponse.
Mais c'est vrai que dans certaines de ses démarches, il a des fulgurances, on dirait. Hein. Et la première, ça a été de choisir le nom de François, d'avoir une démarche d'humilité qui, je crois, est essentielle. Parce que celui qui arrive en disant « je sais tout, je vais tout faire », ben quelque part, il court à l'échec.
Peut-être peut-on faire déjà une distinction en introduction de cette émission entre le leader et le manager. Vous avez donné des conseils de management, oui. C'est pas la même chose que des conseils de leadership.
Non, alors le leadership, c'est un tempérament, je dirais. Le leader est celui, c'est le premier de cordée, pour prendre une expression qui est récente là. Hein. Donc c'est celui qui va entraîner les autres et qui va indiquer le chemin. To lead, c'est conduire. Hein. Et le manager, c'est celui qui va s'occuper de l'homme. Manager, ça a la même racine que manœuvrer. Ça veut dire que ça va apprendre aux personnes et aux équipements à manœuvrer en fonction des circonstances. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plusieurs dimensions. Le leader, il indique une direction et puis qui même me suivent, hein, ou qui me respecte me suivent. Le manager, il va accompagner cet élan vers cette direction-là.
Voilà, donc vous avez été en situation de leadership,
oui.
Et vous diriez aussi de management.
Est-ce
refaire état de votre expérience pour ceux qui...
Eh bien, j'ai eu une double casquette durant les 20 dernières années de ma vie professionnelle. J'étais à la fois chef d'entreprise dans une entreprise du transport et de la logistique, qui est un secteur qui n'est pas toujours évident, et en même temps consultant en management stratégique et opérationnel. Et j'ai gardé ces deux activités parce qu'elles me permettaient de ne pas parler dans la théorie. J'étais d'autant plus crédible comme consultant que quand quelqu'un me disait « mais comment peut-on faire pour régler tel problème ?» Je disais « viens voir chez moi, tu vas voir comment on a trouvé des solutions et comment ça se passe, comment ça fonctionne. » Donc autrement dit, j'étais sans arrêt obligé de revenir sur le terrain. J'avais les pieds dans la glaise et ça c'est essentiel. Les consultants en chambre qui s'enferment dans une certaine technocratie, ceux-là à mon avis peuvent être plus dangereux qu'efficaces.
Alors, dernière question introductive, c'est promis. Je me disais, quand on est soi-même chef d'entreprise ou en situation de management, est-ce qu'on sait assez naturellement vers qui se tourner quand on est en difficulté hors entreprise, j'ai envie de dire, ou en tout cas pour un chef d'entreprise à l'extérieur ou pour un manager, je ne sais pas, avoir recours à des bons conseillers, à des gens pleins de sagesse. Est-ce qu'il y a dans le monde des chefs d'entreprise et des managers, en fait, quelques organismes identifiés comme vraiment des lieux de sagesse, ou est-ce que c'est un peu la jungle et on ne sait pas trop à qui se fier ?
C'est un peu compliqué parce que n'importe qui peut s'installer comme consultant, autoproclamé et effectivement divulguer des conseils. Il y a des organisations qui fonctionnent depuis longtemps là-dessus, qui sont la chambre de commerce par exemple, et tout ce qui est lié aux l'école supérieure de commerce, hein, Toulouse Business School par exemple, dont je suis moi-même un ancien élève. Et puis vous avez également les syndicats professionnels, le MEDEF, la CGPME, qui eux-mêmes organisent des formations, puis des associations comme la Jeune Chambre économique, comme les jeunes dirigeants de France, etc. Vous avez donc ces associations qui permettent de se retrouver entre collègues et d'évoluer. Le point important surtout, c'est de se former.
Donc ça fait du monde en fait. Globalement, vous savez vers qui vous tournez.
Il y a des solutions. Il y a effectivement des solutions. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a trop peu de chefs d'entreprise qui se forment, puisqu'en France, on a en gros 25% des chefs d'entreprise qui se forment, contre 78% pour ça en Allemagne. Alors je ne veux pas toujours dire que l'Allemagne c'est mieux que la France, mais ça montre bien qu'il y a un déficit de formation, parce qu'en France on croit toujours que si on a une bonne formation au départ, un bon bagage au départ, c'est pour toute la vie. C'est pas vrai.
Une bonne école de commerce, par exemple.
Oui, notamment.
Oui, enfin bon, voilà, c'est vrai qu'on connaît le tropisme un peu élitiste de la France sur ce sujet. Alors, vous vouliez commencer cette émission en nous parlant d'un sujet qui peut paraître très prosaïque. C'est tout simplement l'embauche. Voilà, pourquoi est-ce que vous vouliez insister sur ce sujet?
Ben, je voudrais situer l'embauche dans le cadre des règles du jeu. Pour jouer un jeu, quel qu'il soit, on a besoin que les règles soient claires. Si je vous jette un ballon sans vous dire à quoi on joue, vous n'allez pas savoir quoi faire. Et c'est un peu pareil dans l'entreprise. Les gens qui sont embauchés, entreprise ou organisation, c'est vrai aussi de l'administration, hein. Les gens qui sont embauchés souvent ne savent pas quelles vont être réellement les missions qui vont leur être confiées. On parle souvent d'emploi. L'emploi, c'est quelque chose d'un peu passif et figé. La mission, c'est dynamique. Quelle est ma mission? Quelles sont mes missions prioritaires? Et tout ça, il faut être très clair là-dessus. Et j'ai été frappé quand j'ai interrogé les gens dans les entreprises, puisque chaque fois que j'étais appelé par un chef d'entreprise à intervenir pour améliorer, par exemple, la communication ou l'organisation d'entreprise, je commençais par tendre le micro vers le personnel. J'aimais faire le tour du personnel, les écouter. Je passais une heure avec chacun, je notais un peu son ressenti, son vécu, et de très nombreuses fois, j'ai entendu que les règles du jeu n'étaient pas claires, qu'il ne savait pas vraiment ce qu'on attendait de lui, qu'il ne savait pas vraiment quand est-ce qu'il réussissait, quand est-ce qu'il réussissait pas. Il ne savait pas si son patron était content de lui, il ne savait pas si ses collègues s'entendaient bien avec lui. Et donc je me suis dit, il y a un énorme déficit là-dessus, et il faut qu'on fasse un gros travail.
Seulement, il y a plusieurs déficits dans ce que vous dites, c'est à la fois que les règles du jeu ne sont pas claires, qu'il y a peut-être un manque de communication,
absolument,
un manque de gratitude.
Mais tout est lié. Tout est lié. Ça veut dire que si on part pas du principe que chaque nouveau qui rentre dans l'entreprise est une greffe, et que cette greffe, elle ne peut se faire que sur un système qui est correctement irrigué.
Alors, donc, la première exigence, ça serait d'expliciter de manière assez complète, en fait, la réalité du poste, en fait.
Voilà. Alors,
est-ce que
les règles du jeu.
Nous détailler ça un peu.
Les règles du jeu, c'est-à-dire décrire le poste à occuper, et ce poste non pas en termes d'emploi en tant que tel, mais en termes de mission, de projet. Sur quoi tu vas pouvoir agir? Qu'est-ce qu'on va te donner comme manette, et où est-ce qu'on va attendre ta contribution? Tout ça, c'est des mots très importants. Chacun est là pour apporter une contribution au résultat de l'équipe. Et la notion d'équipe est essentielle aussi. Chaque personne n'est pas embauchée pour elle-même en tant que telle. L'individualité est préjudiciable au bon fonctionnement de l'équipe. Donc il faut arriver à comprendre dans l'équipe aussi quelles sont les missions des autres. Et quand toutes les règles du jeu sont claires là-dessus, eh bien effectivement, ce sera facile de voir si la personne est adaptée au poste ou pas.
Alors donc, vous notiez, définir le poste à pourvoir devrait être un préalable absolu, préciser les conditions de création du poste et les motifs de changement du titulaire, c'est-à-dire que ça, il faut savoir le dire, en fait.
Ben oui. Si quelqu'un est parti, soit d'elle-même, de lui-même ou du fait d'un licenciement, il faut l'expliquer à la personne qu'on embauche en disant, voilà, on a foiré pour tel motif. On s'est trompé dans le recrutement, ou la personne n'était pas faite pour ce poste, ou il y a eu une évolution qui lui a pas plu, mais il faut être clair, parce que la personne l'apprendra, elle apprendra par la bande, entre guillemets. Et donc, c'est jamais bon.
D'ailleurs, vous notez par exemple, on cache une partie de la réalité, en même temps ça peut être délicat. Je sais pas si quelqu'un est parti parce que il y a une ambiance exécrable dans l'entreprise, ou parce que
elle
n'était pas satisfaite de la rémunération.
Il faut prendre le taureau par les cornes, hein. Je veux dire que si jamais il y a un problème grave, il faut y être attentif, parce que bon, la rémunération, on a des possibilités limitées dans l'entreprise, mais c'est clair que si on a un poste qui est sous-rémunéré par rapport au marché, entre guillemets, par rapport au même poste dans d'autres entreprises, on gardera personne. À un moment donné, il faut se mettre au niveau.
Vous notiez autre chose, recenser les compétences, expériences et le comportement nécessaire. Ça veut dire quoi en fait ? C'est-à-dire que vous, vos salariés, vous leur dites voilà, j'attends tel comportement de toi.
Absolument, absolument. Et on
ça veut dire quoi ? Est-ce que vous pouvez
préciser ? On insiste beaucoup finalement, beaucoup plus sur le savoir-être que sur les connaissances de départ. Ça veut dire que des compétences, on peut toujours en apporter à quelqu'un, même s'il en manque quelques-unes au départ. Ça, c'est technique. Par contre, le comportement, c'est beaucoup plus difficile. Savoir parler aux autres, par exemple. Savoir être exemplaire. Savoir s'impliquer dans les moments difficiles. Ça, c'est des comportements que tout le monde n'a pas et qu'il faut détecter lors du recrutement. Et c'est jamais évident. Et c'est pour ça que la période d'essai est quelque chose de fondamental. Quand on recrute, on va pas prendre le moins mauvais des candidats, on va prendre celui qui semble posséder les qualités pour le poste, et ensuite on va vérifier, grâce au tutorat par exemple, pendant les 2 mois de la période d'essai, que effectivement la personne fonctionne bien par rapport à ce qu'on attendait en termes de comportement.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple qui vous viendra en tête, où vous avez explicité le comportement que vous attendiez à l'un de vos salariés ?
On peut prendre, par exemple, un poste d'assistante commerciale, d'assistant ou assistante commerciale. C'est vrai que quelquefois, les clients sont un peu capricieux, un peu difficiles, et la personne a tendance à s'abriter derrière l'organisation en disant « mais c'était prévu comme ça, j'ai déjà pris tous mes rendez-vous, donc je peux rien faire de plus ». Non, on fait du commerce. Le comportement que j'attends, c'est qu'on trouve des astuces, des solutions, des idées pour pouvoir toujours être au service du client et le faire passer avant nos propres exigences à nous.
Et sur le volet, je reviens un petit peu en arrière, de savoir dire la vérité. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple aussi qui aiderait à et qui encouragerait les managers qui nous écouteraient ? Vous avez dit une vérité qui n'était pas facile à dire, qui peut-être même vous remettait en cause et...
Dire la vérité quand on a une organisation qui n'est pas satisfaisante en termes de hiérarchie, par exemple. Si on a un chef de service qui n'est pas à la hauteur, qui ne règle pas les problèmes, qui ne donne pas les axes de travail suffisamment clairement, et qu'en dessous de lui c'est la pétaudière, et que du coup chacun tire à U et à Dia, et que de ce fait, les collaborateurs sont désemparés et perdus.
Vous voulez dire que là vous prenez l'exemple d'un quelqu'un que vous avez embauché dans un tel service, et vous lui avez dit le chef de service n'était pas là,
ben
et
non,
je vais faire le travail, c'est ça ?
Je vais être obligé à un moment donné de faire les remises en question qu'il faut faire. Et donc à partir du moment où un collaborateur vient me voir en me disant ben ça va pas, il y a tel et tel problème, savoir faire les remises en question, y compris de son propre responsable.
Alors, vous vouliez finir peut-être ce premier volet, qui peut paraître trivial, mais qui, semble-t-il, est vraiment clé. Vous disiez qu'en fait, il fallait être très précis, même dans le contrat de travail. Est-ce que vous pouvez expliciter
oui.
ça ?
Ben ça aussi, c'est une expérience que j'ai eue un jour avec quelqu'un que je rencontrais dans une entreprise et qui avait à la main un bon de commande. Et qui me dit, voyez, quand je passe une commande, je décris bien ce que je veux, et au dos, derrière le bon de commande, il y a toutes les conditions qui vont être respectées par l'entreprise chez qui je commande. Quand je regarde un contrat de travail, on me parle bien sûr du coefficient et du salaire, c'est une chose, mais on me dit pas du tout ce que je vais avoir à faire. Quand je lis mon contrat de travail, c'est pas clair du tout de ce qu'on attend de moi. Et j'ai trouvé que la réflexion était très judicieuse et je m'astreins maintenant depuis...
Vous voulez dire, on cherche la plupart du temps des compétences, c'est ça, mais on ne décrit pas en fait la...
On ne décrit pas le poste de travail. Le contrat de travail donne un titre, quelquefois qui est pas très évident, donne le salaire, donne le lieu de travail, mais n'indique pas le contenu du travail. Et donc, au dos du contrat de travail, j'ai, par exemple, si je prends le cas d'un chauffeur, ce que j'appelle les consignes générales du personnel de conduite, qui est un extrait du règlement intérieur, dans lequel je décris la façon dont il va utiliser les véhicules qu'on lui confie, la façon dont il doit se comporter sur les locaux et les parkings, et dont il va effectuer ses tâches de chargement, déchargement, manutention. Donc c'est une page, mais qui explique tout. Et il m'est arrivé même d'aller quelquefois devant un tribunal de police parce qu'un collaborateur avait été arrêté parce qu'il n'avait pas sur lui des papiers qu'il devait avoir. Et je rappelais que quand j'avais embauché cette personne, il avait signé son contrat de travail et la partie arrière aussi sur laquelle il avait marqué que tout conducteur qui prend un véhicule d'entreprise doit vérifier avant de partir qu'il a bien avec lui tous les papiers officiels nécessaires.
Pour finir sur ce premier volet, donc on va dire travailler à être clair dès l'embauche et à être vrai, si je résume. Hein.
Absolument.
Qu'est-ce qu'un manager, enfin chez pour un manager ou un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'être chrétien là peut changer ?
Ben d'abord, ça passe par le respect de l'autre. Pour un chrétien, c'est naturel de savoir que l'être humain qu'il a en face de lui est d'abord respectable. Il n'est pas à son service, entre guillemets. On prend pas quelqu'un et on lui fait confiance. Donc ça veut dire qu'on va lui donner la possibilité à un moment donné de s'exprimer, de se réaliser, de s'épanouir même. Hein. Souvent, je fais des annonces quand je recherche du personnel. Non, venez épanouir votre carrière chez nous. Alors c'est prétentieux. Quelquefois, je me le suis fait renvoyer dans la figure, mais c'est pas grave. C'est mon état d'esprit. Je pense que le travail anoblit l'homme, révèle l'homme, et qu'effectivement, pour le chrétien, donner sa juste place à chacun dans la vie, ben c'est contribuer à faire une société plus équitable et plus épanouissante.
On fait une première pause et puis on vous retrouve donc pour cette émission Conseil de bon sens aux managers.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin, conseil de bon sens aux managers avec François de Berthier, chef d'entreprise et consultant en management. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, je voulais qu'on parle avec vous donc de toutes les questions de motivation. On imagine que pour un manager, c'est un vaste défi. Je le disais très brièvement en introduction, entre autorité et maternage, probablement que c'est difficile de trouver le juste équilibre. Vous me disiez en préparant l'émission que il y a pour vous souvent une motivation intrinsèque. Une espèce de motivation en fait cachée, secrète, de chacun des salariés. Donc ma première question, ça serait celle-là. Est-ce qu'il faut, pour un manager ou un chef d'entreprise, travailler à essayer de comprendre, voire même à expliciter avec le salarié ce qui fait sa motivation la plus profonde ?
Absolument. C'est indispensable de savoir ce que la personne qu'on a en face de soi a dans le ventre. Derrière quoi elle court ? Qu'est-ce qui est important pour elle ? Quelles sont ses valeurs ? Quelles sont ses passions ? Hein, et c'est vrai que quand on a découvert que quelqu'un n'a aucune passion, c'est quand même un peu inquiétant. Donc, c'est la grande difficulté du recrutement d'ailleurs, c'est que la plupart des gens sont désemparés quand ils se trouvent en face d'un inconnu pour arriver en une heure d'entretien par exemple à détecter la motivation interne de cette personne. Et c'est là que moi je me suis beaucoup servi de graphologie, il y a des tests qu'on peut faire, il y a des choses comme ça qui vont permettre de découvrir un peu mieux la personne qu'on a en face de soi. Pourquoi ? Ben parce que il y en a qui ont le feu sacré, qui portent en eux une certaine dose de motivation qui les pousse à aller plus loin, à chercher à comprendre, à chercher à s'impliquer, et d'autres qui sont beaucoup plus passifs, beaucoup plus spectateurs. Et selon le poste qui est à pourvoir, on va accepter de prendre quelqu'un qui est spectateur ou pas. Mais dans tous les cas, si on prend quelqu'un qui n'est pas adapté du tout, de par son tempérament, sa personnalité, à la responsabilité qu'on veut lui confier, c'est sûr qu'on court à l'échec. Donc découvrir la motivation de la personne, c'est quelque chose qui est essentiel, et ça peut se faire en posant des questions, même s'il faut pas être non plus...
Voilà, j'allais dire, c'est ça peut être une forme d'impudeur aussi, c'est-à-dire que...
Ben, il faut pas, il y a des choses qu'on demande pas, c'est évident, mais on peut poser des questions et voir. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Quand je recrute un commercial, je lui demande toujours, est-ce que vous aimez rendre service ? La réponse toujours, bien sûr, c'est oui. Citez-moi quel est le service que vous avez rendu ce matin, avant de venir. Oh ben, je sais pas vraiment. Non, ce matin, non, rien de spécial. Mais alors hier. Et quelquefois, on s'aperçoit qu'il faut remonter 4 jours ou 5 jours en arrière pour qu'il trouve un petit service qu'il a rendu à quelqu'un. Quelqu'un qui veut être commercial, il faut qu'il ait le sens du service. Il faut que rendre service soit naturel chez lui. Et voilà des questions toutes simples. Bien sûr, la personne peut tricher dans sa réponse.
De l'extérieur, c'est pas ce qu'on dirait de prime abord d'un commercial. On dirait qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui arrive à vendre à tout prix, non?
Ça, c'est le commercial qui met le pied dans la porte, oui, évidemment. Mais c'est pas ça, le commerce. Hein, le commerce, c'est d'arriver à détecter la motivation de son client, comprendre ce dont il a besoin, et voir dans la gamme des produits ou services qu'il a à proposer, lequel s'adapte bien par rapport à cette attente.
Qu'est-ce que vous diriez après quels seraient les grands conseils ? Vous me direz, vaste question, hein, mais pour essayer de donner confiance à ses salariés.
Alors, le premier point qu'il faut dire, c'est qu'on ne crée jamais la motivation. Il faut arrêter de donner des recettes en disant « motivez vos troupes », etc. La première façon de créer la motivation chez les gens, c'est de créer un climat de confiance. Quelqu'un qui est en confiance va être motivé, va pouvoir s'impliquer. Quelqu'un qui est en défiance va toujours être en réserve. Donc la première grande question, et qui est vraie de toute organisation humaine, c'est vrai même au niveau d'un pays ou de l'Europe, est-ce qu'on a créé les conditions de la motivation ? Et c'est là que quelquefois, on est complètement à côté de la plaque parce qu'on est beaucoup trop dans la société de la défiance. Chacun se méfie de l'autre. On va faire venir un plombier, mais on se méfie de lui parce qu'on a peur qu'il ne nous fasse pas une bonne installation. On va voir un toubib, mais on va vite en consulter un second parce qu'on n'est pas sûr qu'il nous a fait le bon diagnostic, etc., etc. C'est ça le plus important. Comment on peut casser cette société de la défiance, et en particulier au niveau de l'entreprise ou de l'organisation
alors
à laquelle on appartient ?
Comment vous y preniez et quels conseils vous donniez aux gens que vous avez conseillés ?
Ben, pour créer la confiance, il faut d'abord annoncer les règles du jeu, comme on l'a dit tout à l'heure, et ensuite avoir un comportement au fil de l'eau et au cours des événements, montrant que on s'attaque à la racine des difficultés qui sont rencontrées par les uns et par les autres, et qu'on va essayer de les régler véritablement. On va pas se cacher à son petit doigt. Quand il y a un problème à régler, on va pas le repousser toujours au lendemain. Hein, il faut qu'il y ait une volonté de traiter les griefs des uns et des autres. La personne qui est dans une difficulté permanente dans son poste de travail et qui voit que tout le monde s'en moque, ben effectivement, elle sera jamais motivée. Elle va dire, je suis la dernière roue de la charrette, tout le monde se fout de moi.
Donc première chose, est travailler à essayer d'instaurer cette confiance en étant en fait attentif quelque part à, aux difficultés, en répondant présent.
À l'écoute et en information. Ça veut dire que si on est suffisamment sur le terrain, parce que ça aussi c'est obligatoire, il faut aller au contact des gens, pas être toujours enfermé dans son bureau. Aller au contact des gens sur le terrain, voir comment ils vivent leur réalité, et puis s'il y a une difficulté, s'en emparer et la régler. Plus on est à un niveau élevé dans la hiérarchie, plus on doit travailler à ce que les choses soient simples pour ceux qui sont en dessous de nous. Parce que nous, on a plus de moyens et de capacités de régler un problème. Celui qui dit « je règle mes problèmes, les autres ils se débrouillent », ben forcément, c'est pas un bon manager.
Donc ça, c'est le premier point, c'est la confiance. Qu'est-ce que vous diriez d'autre ? Enfin, travailler à installer la confiance. Est-ce qu'il y a, pour travailler à installer la confiance, je vais y arriver, est-ce qu'il y a d'autres choses clés, vous semble-t-il ? Moi, j'avais noté, sur un certain nombre d'articles de presse, que les choses étonnantes, en fait, la motivation, la confiance en entreprise serait pas du tout d'abord due au niveau de rémunération, même si en fait chacun attendrait d'avoir quelque part de trouver une forme de justice en fait au travail qu'il donne, mais les points qui ressortent, c'est le sens, la reconnaissance et la confiance.
Le mot le plus important, c'est reconnaissance. Effectivement, dans toutes les enquêtes, le salaire vient qu'en cinquième position de la motivation des gens, et là on parle de motivation extrinsèque d'ailleurs, hein. On parlait d'intrinsèque tout à l'heure, la motivation salariale est une motivation extrinsèque, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extérieur qu'on va apporter sur l'individu. Et le premier point, dans tous les cas, c'est véritablement la reconnaissance. Est-ce que la personne est reconnue pour son travail ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que régulièrement, on vient lui dire, ben c'est bien, tu t'es bien débrouillé, tu as bien réglé telle question, ou tu as eu telle difficulté, voilà comment tu pourrais t'y prendre la prochaine fois pour que ça se passe mieux. Voilà. La reconnaissance, c'est être proche de l'individu, pas lui faire forcément de cadeaux, lui dire, lui envoyer un retour. Regardez, vous me disiez vous-même comme journaliste que quelquefois, vous n'avez aucun retour de choses que vous avez réalisées et vous vous dites, est-ce que mon message est passé ? Ben voilà. Le problème, c'est que cette incertitude chez les gens, qui ne savent jamais s'ils ont bien travaillé ou pas bien travaillé, mon patron ne dit rien, je l'ai entendu des dizaines de fois, ou il vient gueuler de temps en temps parce que ça ne va pas, mais jamais il est venu me voir en me disant, bravo, t'as bien joué, t'as sorti telle commande dans les délais, c'était pas évident. Ben ça, c'est essentiel. C'est ça la première reconnaissance. Et la deuxième reconnaissance, ça va être d'informer régulièrement ses collaborateurs. Ça veut dire que si on les laisse dans leur coin et que l'entreprise ou l'activité poursuit son chemin et qu'on prend jamais le temps de venir les voir pour les informer des évolutions, bah, ils vont se sentir un peu marginalisés et inutiles.
Ça paraît très simple quand vous l'expliquez comme ça, mais on imagine.
C'est très exigeant. C'est très très exigeant au contraire, parce que quand on demande, le temps passe très vite. Quand on fait un compte-rendu de réunion, souvent je demande à voir les comptes-rendus de réunion dans les entreprises pour voir, ou les réunions de délégués du comité entreprise, ou de délégués du personnel, et quand on regarde les dates des réunions, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas tenues régulièrement. Et on s'aperçoit que beaucoup de temps se passe entre deux réunions, et on se dit, mais pourquoi vous n'en faites pas plus ? Eh bien, on n'a pas le temps, ça passe trop vite, voilà. Donc c'est très exigeant, savoir trouver le temps de faire les choses comme elles doivent être faites.
J'avais noté aussi à propos de la reconnaissance qu'en fait il y aurait plusieurs niveaux de reconnaissance. J'avais noté reconnaître la personne, reconnaître les résultats, reconnaître l'effort et reconnaître les pratiques de travail. C'est-à-dire ce dernier point porte principalement sur la manière d'exécuter le travail.
Oui.
Est-ce que ce distinguo vous parle, la personne, les résultats,
oui,
l'effort et les pratiques de travail ?
La personne, c'est la première des choses. Mais souvent c'est sujet à caution, je dirais, parce que si on dit à quelqu'un en particulier, je te reconnais comme un élément clé, un talent irremplaçable dans l'entreprise, ça va susciter des jalousies. Hein, donc il faut être très attentif à ça, à ne pas non plus avoir des vedettes, entre guillemets, dans les entreprises. Mais c'est vrai que chaque fois que quelqu'un a un comportement exceptionnel et réussit quelque chose, savoir féliciter et savoir féliciter en public, c'est essentiel. Ça veut dire que quand on a un reproche à faire à quelqu'un, on va le faire seul à seul, tête à tête, dans son bureau, dans une salle de réunion. Quand on a une félicitation à porter, il ne faut pas hésiter à y aller avec le tambour et à aller sur le poste de travail, au milieu des autres, en disant « Ah, bravo Emmanuel, super, ça c'est vraiment une belle réalisation, voilà le mail qu'a envoyé le client pour nous remercier ». Voilà.
Alors, j'avais noté surtout reconnaître l'effort, ça, ça me semblait, parce que parfois, peut, vous parliez des commerciaux, on peut se donner beaucoup de mal et puis ne pas arriver à décrocher de contrat. Non,
c'est vrai, c'est une école d'humilité
c'est permanente.
C'est
probablement commerce. Difficile à mesurer pour un manager, mais...
Oui, mais enfin, il y a des chiffres clés quand même, hein. C'est là que, on dit toujours que dans le management, il faut alterner le hard et le soft. Alors, sans faire
dire,
un cours, hard, ça veut dire la rigueur. La rigueur par rapport aux chiffres. La première règle pour un commercial, c'est d'aller visiter des clients. Le commercial qui visite 5 clients dans la semaine, il n'a aucune chance de faire ses objectifs. Donc on fixe des rythmes de visite. On va dire, il faut visiter par exemple minimum 20 clients dans la semaine. Et celui qui va jamais trouver le temps et les moyens de visiter les 20 clients, il a peu de chances d'arriver au résultat. Donc reconnaître l'effort, c'est reconnaître à un moment donné les efforts d'organisation qui ont été faits par la personne pour pouvoir réussir à faire dérouler sa tâche, son métier, selon les normes. Parce que partout, il y a des processus. Moi qui suis dans la logistique, je peux vous dire qu'il n'y a aucune opération qui ne donne pas lieu à un processus précis qui est décrit avec des heures, avec des délais, avec des kilomètres. Tout est extrêmement précis.
L'autre chose, c'est favoriser, que vous vouliez noter, favoriser le management participatif. Alors, on peut lire beaucoup de choses sur ce sujet. C'est à la mode, j'allais dire, c'est probablement, ça manque de respect, mais dans l'Église. En tout cas, le pape François travaille à une forme de décentralisation de l'Église, il l'a dit à plusieurs reprises. Il parle même de révolution dans l'exercice de la papauté. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Est-ce que c'est un peu une tarte à la crème contemporaine? On parle de révolution managériale, ou est-ce qu'il faut de fait qu'il y ait une révolution managériale?
Ça fait très longtemps qu'on tourne autour, hein. Souvenez-vous que c'est De Gaulle qui a lancé la participation en France, hein. Et donc ça remonte aux années 60 et quelques, hein. Donc
est-ce que c'est lui qui a lancé le management participatif?
Non,
pas forcément. Par
non,
contre.
Non, non. La participation, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui passe par le respect des autres, d'ailleurs, hein. La participation, c'est déjà dire la personne que, alors excusez-moi du terme, que j'utilise ou que j'exploite quelque part à faire telle tâche peut aussi donner des idées. Voilà. Et donc, la participation, c'est que la personne va être capable d'être apporteur de solutions, de moyens, et en même temps, va être acteur du changement qui est à opérer.
Mais ça paraît être une évidence. Donc, est-ce que...
Ça n'est pas toujours.
Parlez-nous de certaines missions de conseil où il a fallu que vous travailliez à mettre ça en place. Est-ce que vous reviez un exemple?
Bah oui, je pense à une société qui avait d'énormes problèmes de SAV, par exemple.
SAV, c'est?
Service après-vente. Hein, donc, il y avait une équipe de 7 techniciens qui faisaient du service après-vente et qui étaient toujours débordés. Et donc, c'était une mauvaise image pour l'entreprise. Et on s'est aperçu que personne n'avait jamais pris le temps de réunir ces 7 techniciens pour savoir quels étaient les motifs les plus redondants, comme on dit, les plus réguliers, récurrents de réclamation des clients, et pour découvrir les points de faiblesse des équipements qui étaient vendus, et peut-être se demander s'il fallait pas qu'on remette en cause le processus de fabrication, ce qu'on a fini par faire. Mais au début, personne n'a pensé à dire il faut arrêter l'hémorragie. Voilà, parce qu'on n'écoute pas les gens, on donne pas la parole aux gens. Et c'est là que celui qui a le souci de la concertation, eh ben il va commencer par faire de l'information lui-même. Deuxièmement, il va être à l'écoute des remontées d'informations qu'il y a du terrain, et donc on va rentrer dans une démarche de communication. Et quand cette démarche de communication va être arrivée à un niveau suffisant, il va y avoir de la communication transversale, hein, entre niveaux hiérarchiques, entre collègues de services différents, et là on rentre dans le processus de concertation. La concertation, c'est pas simplement entre la direction et la base, c'est à tous les niveaux de l'entreprise. C'est de se dire, je serai plus intelligent s'il y a un financier avec moi, un commercial et un technicien pour régler le problème qu'on a en face de nous.
Est-ce que vous avez, dans votre entreprise, institutionnalisé d'une certaine manière ce management participatif, ou est-ce que ça se fait...
On a organisé des choses, effectivement, pour qu'il y ait de temps en temps ce qu'on appelle des points fixes et pour amener les gens à se parler. Parce que souvent, ils prennent pas le temps de se parler. Ils vivent côte à côte et ils vont pas échanger. chaque fois qu'on peut provoquer des séances d'échange qui n'ont pas besoin de durer très longtemps. On a institutionnalisé comme ça des réunions debout qui ont lieu tous les matins à 10h entre l'équipe du matin et l'équipe qui va prendre la suite de l'activité pour qu'il y ait un échange, qu'ils se disent un peu les problèmes qui sont en cours, les difficultés qu'on peut avoir rencontrées, les pépins qu'on a pu avoir en fin de nuit ou en début de matinée, et puis qu'on prenne des mesures communes, concertées.
Pour finir, vous voulez insister sur la nécessité d'investir sur un personnel de qualité. Alors en quoi ça peut... côté salarié, on comprend tout de suite. On se dit que si un patron réfléchit comme ça, à long terme, on va être motivé. Mais est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ?
C'est que je dirais que la qualité du personnel est l'investissement le plus rentable que veut faire un chef d'entreprise. Et c'est vrai dans n'importe quelle organisation. Il ne faut pas avoir peur d'embaucher des gens qui sont plus forts que nous, qui est une expérience plus riche que la nôtre, qui vont apporter véritablement un sang neuf, un regard nouveau. Et j'ai été très impressionné quand j'ai commencé ma vie professionnelle, où j'ai travaillé au Canada chez Bell Telephone. J'étais dans un service qui s'appelait Recherche et Analyse Financière. Nous étions environ 35 personnes dans ce service, une entreprise qui avait à l'époque plusieurs dizaines de milliers d'employés. Hein. Et dans ce service, 35 personnes, il y avait 17 nationalités différentes. C'était une effervescence permanente d'idées, de concepts, de chocs culturels qui étaient apportés. Et c'était d'une richesse extraordinaire. Donc, quand on dit investir dans du personnel de qualité, ça veut dire privilégier aussi la diversité. Hein. Ça, c'est très important.
Pour finir sur ce volet de large, de travailler la motivation donc par de multiples biais qu'on vient de décrire, même question que dans la première partie, au risque d'apparaître un peu scolaire, qu'est-ce que vous diriez quand on est chrétien, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous avez eu l'impression, vous qui essayez, semble-t-il, d'être chrétien, vous êtes dit à un moment, tiens, là, ça m'a aidé.
Je dirais que c'est à la fois un atout et une exigence. Un atout parce que ça nous donne une sensibilité naturelle à l'autre. Le respect de l'autre, c'est quelque chose qu'un chrétien doit porter en lui. Je dis pas qu'on le fait toujours, parce que on a par moments des moments d'égoïsme aussi et de lâcheté. Mais c'est une première notion qui doit nous être, je dirais, naturelle entre guillemets. Le respect de l'autre, l'écoute, toutes ces choses-là doivent être spontanées. Et puis c'est une exigence dans la mesure où je peux pas dire des choses, professer des choses et me comporter comme un gougnafier de l'autre côté. Ça veut dire que, et ce sera peut-être le chapitre suivant qu'on va aborder, il faut quelque part avoir la volonté d'être un peu exemplaire. Si moi-même je me remets pas en question, si moi-même je ne cherche pas à reconnaître que par moment j'ai tort, que par moment j'ai pris une décision trop rapide, je serai pas forcément reconnu comme étant quelqu'un qui amène un peu la lumière et le feu, pour reprendre l'évangile d'aujourd'hui.
Voilà, donc vous avez lu l'évangile du jour. Et donc vous pourriez le citer de tête, comme il me tarde que ce feu soit répandu sur la terre.
Absolument, mais après ça il y a la suite, sur la division.
Voilà, c'est une parole du Christ donc dans l'évangile de ce jour. On vous fait une deuxième pause musicale et on vous retrouve tout de suite après pour cette émission Conseil de bon sens aux managers.
Santo Sé. Présence à Aspé 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission donc conseil de bon sens aux managers avec François de Berthier, si vous nous prenez en cours de route, chef d'entreprise et consultant en management. François de Berthier qui était déjà venu faire une mission sur la gestion de son temps et voilà que j'oublie encore le conseil en...
L'approche du changement.
Pardon, la conduite du changement. Dans cette dernière partie, donc, je voulais parler avec vous donc de l'exemplarité. Vous en avez déjà parlé. J'aimerais revenir donc sur le pape François et les quelques citations que je faisais au début de cette émission. Donc, je disais que le pape François avait été élu, s'est imposé rapidement sur la scène internationale comme un leader reconnu, comme un, on va dire, comme un modèle presque de leadership, élu homme de l'année en 2013 par Time Magazine. Voilà, je ne sais pas si c'est forcément un bon critère pour dire que c'est un bon leader, mais c'est, semble-t-il, un des hommes aux tweets les plus suivis de par le monde. Et je suis tombé donc sur, entre autres, sur plusieurs articles d'un certain Jeffrey Crames, je ne sais pas si je prononce correctement, auteur américain à succès, spécialisé donc dans les questions de management et qui, à plusieurs reprises, donc entre autres dans Cadre et Dirigeants Magazine, souligne les vertus ou l'exemplarité du pape François. Je voulais citer les cinq points qui pour lui en font un modèle de leadership. Je ne sais pas si ça va avec l'exemplarité, vous me direz. C'est un dirigeant modeste qui sait mêler ses collaborateurs. Il reprend l'expression du pape François, sentez comme votre troupeau, qui ne juge pas trop vite, qui sait s'adresser au plus grand nombre et qui sait travailler avec d'autres, c'est-à-dire apporter du sang neuf dans son équipe. Est-ce que, je sais pas, ça vous semble parlant quant à l'exemplarité d'un manager, et si oui, pourquoi ?
Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. La première démarche, qui est une démarche d'humilité, est essentielle. Il ne faut pas jouer les grosses têtes et dire « j'ai pris telle responsabilité », etc., d'un air de dire qu'on domine les autres, quoi. C'est pas vrai. On a, nous aussi, en tant que manager, besoin de se remettre en question. Donc, être humble, c'est une première démarche de lucidité et d'intelligence.
Et ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que, quand on est chef d'entreprise, il faut savoir par moment reconnaître ses erreurs, voire même demander pardon à ses salariés dans
Absolument.
Certaines circonstances ?
Si on prend une décision trop rapide, par exemple, ou en ignorant certains aspects ou certaines conséquences anormalement, il faut savoir dire « j'ai fait une bêtise » et dire comment on peut revenir en arrière. Et c'est là qu'on va retrouver la notion de délégation aussi, qui est très importante. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à monopoliser tout le pouvoir. Il faut véritablement pratiquer la décentralisation et la délégation. Et ça manque dans l'Église. Hein. Je ne veux pas jouer les honneurs de leçon en la matière, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a la volonté au niveau de la hiérarchie cléricale de conserver la réalité du pouvoir et d'éviter que d'autres puissent, à un moment donné, prendre des initiatives en allant trop loin. La délégation, c'est faire confiance. C'est à un moment donné dire à quelqu'un, ben je t'ai mis à cet endroit-là, tu assumes tes responsabilités, je te fais confiance. Certes, tu auras des comptes à rendre. On a tous des comptes à rendre. À un moment donné, je parle même sur cette terre, hein. Ensuite, on en aura d'autres en haut. Mais il faut savoir, à un moment donné, déléguer du pouvoir, décentraliser les responsabilités. Et ça, c'est important. Et je trouve aussi qu'il a su monter en première ligne. Très souvent, le pape était protégé par toute la curie romaine, par une structure un peu compliquée, et l'idée de dire, ben non, moi je vais être au milieu de mes troupes.
Est-ce que vous avez un exemple de fois où vous avez dit, tiens, il montre l'exemple justement.
Mais ne serait-ce que quand il a décidé de quitter les appartements pontificaux pour aller s'installer dans la
Maison Sainte-Marthe.
Voilà, au milieu d'autres prêtres et d'autres évêques et cardinaux, ben c'est l'idée de dire, je veux être sur le terrain et au cœur et au contact des autres. Je veux être quelqu'un d'abordable. Tout dirigeant qui est inabordable se coupe complètement des réalités et des hommes et des femmes.
Alors j'ai lu dans quelques-uns des articles que j'ai parcourus qu'un conseil, moi qui m'a fait sourire, mais j'ai trouvé ça intéressant, qu'un bon manager devrait, ne serait-ce qu'une fois, faire le travail de la personne pendant une demi-journée, une journée, de la personne qu'il est censé manager pour se rendre compte de la réalité du poste. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pratiqué?
Je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je le pratique encore et je le fais pratiquer à mes collaborateurs. C'est-à-dire que régulièrement, je propose par exemple à des commerciaux de venir au service comptabilité pour faire la relance des règlements en retard des clients. Hein, et pourquoi? Parce que sinon c'est toujours la guerre. Le commercial disant « Ouais, moi j'ouvre des comptes clients et puis ces imbéciles, la compta, ils téléphonent derrière, ils dégoûtent le client, on perd le client. » Mais non, quand on a passé une commande, il faut bien la payer à un moment donné. Donc c'est très important qu'à un moment donné, on mélange les techniciens et les commerciaux. Je me rappelle quand j'étais dans la photographie, il y avait un commercial qui se plaignait toujours de la saleté des opératrices de finition qui laissaient leurs empreintes sur les photos et qui étaient toujours critiques à cet égard. Bon, au moment de Noël, une année, je lui ai dit, tu vas aller au service finition et emballage des grandes photos, hein, des posters, et tu vas faire toi-même les choses pour vérifier que toi, tu laisses pas d'empreintes. Et puis, à la fin de la première journée, je vais le voir. Alors, André, comment ça se passe? Ah, ben c'est vrai, c'est dur hein, de ne pas faire d'empreintes. Même avec des gants, quelquefois, on met des empreintes. Ben, je lui ai dit, tu vois, la réalité, c'est pas aussi simple que tu pensais.
Et au risque, je veux pas vous piéger, mais en même temps, peut-être que les auditeurs se posent la question, alors je la pose peut-être à leur place. Est-ce à dire que vous, dans votre entreprise, vous avez, ne serait-ce que l'espace d'une demi-journée, pris le poste de chacun? Vous avez fait un moment du secrétariat, de la compta?
Absolument, régulièrement, hein, et même des livraisons. Hein. Il m'est arrivé de prendre le camion, de me mettre en t-shirt, d'aller livrer des clients. Et quand j'arrivais chez les clients, ils me tutoyaient comme si j'étais n'importe lequel des chauffeurs de l'entreprise. Et mets ça là, et fais ça, et surtout fais-moi signer tes papiers, parce que sinon ça n'irait pas. Mais c'est important. C'est important, c'est vraiment le contact avec la réalité.
Le deuxième point que vous voulez souligner, c'est s'ouvrir à la contradiction. Alors, vous en avez déjà parlé, mais c'est la partie est prêt pour vous de l'exemplarité. Est-ce que vous pouvez repréciser dans ces cas-là ce que vous entendez par là et pourquoi est-ce que vous voulez insister là-dessus?
Ben, parce qu'il y a des points de vue qui sont différents, que quelquefois on prend des décisions en n'ayant pas tous les éléments. On va trop vite. Et je constate que beaucoup d'entreprises passent beaucoup de temps après ça à essayer de régler les conséquences de décisions qu'elles ont prises trop rapidement. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des processus de décision dans l'entreprise qui vont permettre de bien fonctionner? Ben, on s'aperçoit que si on n'attend pas le dernier moment pour faire ce genre de démarche, si on prend la décision à la vitesse à laquelle elle peut être prise, eh ben, on va avoir le temps de se concerter et d'obtenir les points de vue des différentes parties prenantes. Hein. Il peut y avoir l'informatique qui est concernée, il peut y avoir la comptabilité, il peut y avoir l'exploitation, et chacun doit participer à la mise en œuvre de quelque chose de nouveau.
Est-ce à dire qu'il faut aussi veiller, alors dans l'article que je citais là, donc à propos du pape François, d'un certain, donc je vais retrouver son nom, Jeffrey Crams, donc auteur, américain à succès sur les questions de management, il soulignait le fait que le pape a su au moins dans la gouvernance pratique de l'Église s'entourer de ce fameux G8, et dans ce G8, alors je suis pas allé vérifier, il y aurait des gens certes en qui il a confiance, mais qui sont pas forcément de prime abord d'accord avec lui. Est-ce que ça c'est important? Est-ce que c'est pas risqué dans la conduite d'une entreprise?
C'est ce que les présidents américains ont appelé leur brain trust, hein, quelquefois, c'est-à-dire avoir autour d'eux des collaborateurs proches, fidèles, parce que c'est ça qui compte aussi, hein, pas créer des contre-pouvoirs, mais qu'ils soient pas forcément d'accord, c'est bien, parce que ça veut dire qu'ils vont avoir des regards croisés, différents, différenciés, et qui vont permettre d'avoir une appréhension plus globale de la réalité. On est dans une époque où l'économie numérique qui est en train de se mettre en route aujourd'hui est en train de tout bouleverser. 70% des métiers sont remis en question dans les 20 ans qui viennent. Ça fait peur, ça fait frémir. Et je me dis, comment ils vont faire les jeunes qui me suivent derrière pour assumer tout ça? Mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est là que si effectivement on a un regard qui est, je dirais, monolithique, qui ne regarde que dans une direction au lieu d'avoir, comme la mouche, une vision à 360 degrés, on va pas y arriver. Donc c'est très important d'avoir au sein de l'équipe des gens qui sont pas d'accord.
Voilà, donc c'est des gens extérieurs, mais non, ou alors c'est d'assumer qu'on travaille avec des gens qui sont objets de contradictions régulières.
Voilà, on a des collaborateurs qui sont pas des bénis oui-oui, et ça va très bien.
Pour finir, vous vouliez insister sur le fait de participer à la vision. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? C'est-à-dire qu'un vrai chef d'entreprise, c'est quelqu'un, ou un vrai manager, je crois que c'était le rôle du leader de donner la vision.
Le problème, c'est que je reviens à cette notion qu'on a déjà développée, qui est l'idée du changement. On est dans un monde en mutation. Les temps changent à une vitesse exponentielle aujourd'hui. Et c'est vrai que...
Est-ce que vous pouvez juste prendre une illustration? Parce que ça peut faire un peu tarte à la crème de dire ça. Dans votre métier, ça veut dire quoi, par exemple?
Je pense à la dématérialisation des factures, des bons de commande. Aujourd'hui, on a toujours beaucoup de papier, hein, parce que la civilisation du zéro papier, on n'y est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, par exemple, un transporteur, il doit d'abord avoir un outil informatique extrêmement puissant pour pouvoir faire des échanges de données, hein, par ce qu'on appelle EDI, échange de données informatisées, en temps permanent. Je veux dire que quand quelqu'un nous confie une marchandise qui part de Nancy et qui est à livrer par exemple à Perpignan, on va informer que la marchandise arrive à Toulouse en temps réel, en bon état, et que on va informer ensuite qu'on a pris rendez-vous avec le client de Perpignan pour le livrer par exemple demain, et quand ça va être livré à Perpignan, que ça a été bien livré, qu'il n'y a pas eu de réclamation, que tout s'est bien passé. Donc au niveau... informatique et économie numérique aujourd'hui, on a un outil qui est d'une très très grande puissance. On a des choses qui ont changé complètement nos modes opératoires. Aujourd'hui, l'opérateur, le chauffeur qui fait la livraison, a avec lui un smartphone qui lui permet de valider la livraison et ça remonte directement chez le donneur d'ordre. Hein. Regardez ce qu'on fait avec les imprimantes 3D. Aujourd'hui.
Alors, j'en reviens à ma question juste parce que je vois que le temps passe, il nous reste une grosse minute. Donc la vision, c'est le propre du leader mais aussi du manager.
C'est se poser la question, et à plusieurs, vers où va-t-on? Comment ça va se passer? Quels sont les grands défis? Qu'est-ce qu'il faut pour préparer le futur? Et notamment en matière de formation des hommes. C'est essentiel. On est là à attendre que la suite arrive et nous tombe dessus et à ce moment-là on sera tous écrasés, ou on se dit... Quelles sont les hypothèses les plus probables et comment je peux m'y préparer et y préparer mes collaborateurs? Et plus j'ai un niveau de responsabilité élevé, plus mon devoir est de préparer mes collaborateurs à affronter ce futur. Quand j'étais dans la photographie, en 1985, on avait fait un plan stratégique montrant qu'en 2000, il y aurait un basculement total entre l'image argentique et l'image électronique. Et quand Kodak nous a racheté au suite d'une OPA, ils m'ont balayé tout ça en me disant « Mais non, les selles d'argent, il n'y a rien de mieux, ça restera toujours ça. Oubliez complètement l'image électronique, ça ne survivra pas. » La suite, elle était claire.
Eh ben, merci beaucoup François de Berthier d'être revenu au micro de Vivante Église ce matin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Rémi Soulignac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.